et puis qu'on peut aussi être au long cours en restant finalement assez proche de chez soi pour en particulier évidemment c'est ainsi que les hommes vivent, ou c'est pas forcément l'évolution géographique qui fait que c'est un roman au long cours, mais aussi parce que bah voilà, c'est une vraie somme. Et puis Vincent Message, alors lui par contre je pense qu'il y a moins de gens, mais ça va venir, hein, qu'ils connaissent, puisque c'est son premier roman qui s'appelle Les Veilleurs aux éditions du Seuil. Vincent va voir que pour son premier roman, il n'a pas choisi la facilité, puisque déjà le livre fait quasiment 700 pages. On verra aussi qu'il y a beaucoup de genres divers et variés qui se côtoient à l'intérieur du livre. Et puis, on essaiera de comprendre un petit peu aussi comment vous avez travaillé sur ce roman et comment vous en êtes arrivé à ce premier roman qui a eu reçu d'ailleurs un accueil critique extrêmement favorable à la rentrée dernière et qui d'ailleurs était présent sur certaines listes de prix. Hein. On va donc commencer avec Michel Lebris. Est-ce que vous vous imaginez écrire une nouvelle de 3 pages qui se passerait dans une pièce close ?
Ah. De 3 pages, je sais pas, dans une pièce close, ça serait plus dur, mais enfin. Parce qu'avec rêver vous... dans une pièce close, moi quand j'étais gosse, j'étais dans mon grenier, la tête plongée dans les veillées des chaumières, journal des voyages et tout ça. C'est peut-être là que j'ai le plus voyagé. Je savais même pas lire encore, mais il y avait ces fameuses gravures d'explorateurs hurlant de douleur dans une marmite avec des sauvages hilars autour qui visiblement s'attendaient à un excellent pot-au-feu ou des Indiens épouvantables qui scalpaient les malheureux les aventuriers ou d'Hidalgo qui c'est un truc qui faisait suer son or. Un Hidalgo sur une queue, enfin, le boucanant en fait, donc il avait un visage convulsé de douleur et tout ça, et ça m'a marqué. Je me disais moi aussi un jour je serai explorateur. C'est une réaction un peu bizarre peut-être, mais enfin ça me filait des cauchemars pas possibles et je me replongeais dedans dès le lendemain matin. Donc j'ai beaucoup voyagé aussi dans une pièce close, hein, on peut...
Mais maintenant vous emmenez le lecteur alors dans des voyages littéraires qui sont extrêmement lointains, extrêmement variés. C'est une volonté vraiment d'écrivain justement de partir loin et de dépayser complètement le lecteur.
Moi, je pense pas au lecteur quand j'écris un livre. Hein.
C'est d'abord vous.
Moi, c'est le bonheur de créer des mondes. Et après, s'il y a des gens qui font le voyage en le lisant, c'est très bien comme ça. Mais je n'ai jamais fait un livre pour un lecteur. Je suis né en bord de mer, en Bretagne. Et quand vous êtes face à la ligne d'horizon, vous vous demandez ce qu'il y a de l'autre côté. J'ai toujours pensé que mon vrai pays était de l'autre côté. Mais ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui est très présent dans l'imaginaire breton, en fait. Et puis, je suis né dans une petite maison très isolée. Si j'allais d'un côté, à 1,5 km de là, il y avait un tout petit port de pêche. Qui, pour mes yeux d'enfant, était peuplé de gens ivres-morts du matin au soir, mais je pense que c'était vrai, d'ailleurs. Et donc, je les écoutais, les marins, alors de la Royale, comme on disait, c'est la marine nationale, les marins de commerce, qui racontaient des histoires sur toutes leurs aventures dans tous les ports du monde. Je pense que les 90% étaient imaginaires, mais ça, c'est pas grave. Puis si je tournais de l'autre côté, il y avait... c'était un hameau de paysans, et entre les deux, ils se parlaient pas, sauf le samedi soir, lors des bals, parce que les filles dansaient avec les marins, pendant que les paysans se saoulaient, et quand ils étaient assez sous, parce que toutes les filles voulaient épouser des marins, bien évidemment, quand ils étaient assez sous, se déclenchait la bagarre entre les paysans.
Ils se parlaient, mais pas forcément gentils.
Le samedi soir, mais autrement, non, et ça, c'était un autre univers. Quand j'étais gosse, il n'y avait même pas d'électricité dans le coin, ça s'est mis quand l'électricité a été mise quand j'avais 10 ans. Moi, je n'ai pas connu l'électricité dans ma maison natale. J'en suis parti quand j'avais 14 ans. Et là, les paysans, eux, les histoires qu'ils racontent, c'était aussi le grand ailleurs, mais le grand ailleurs, pas de l'autre côté de l'horizon. C'était le fantastique de la mort, le truc. Toutes les histoires de paysans sont absolument épouvantables. On sortait de là avec le sentiment comme il faisait nuit, qu'il y avait des bêtes bizarres qui rôdaient, on entendait des bruits autour de nous et tout ça. Voilà, c'était mon monde imaginaire, ça. Et je crois que... Je crois que j'essaye de le recréer, en fait. Et que j'essaye surtout de recréer... Et le lecteur, là encore, quelque part, je m'en fiche, c'est que j'essaye de recréer pour moi ce qu'a été le bruit de la mer quand j'étais gosse. Je suis né à 20 mètres, ma mère a accouché dans la maison, je suis né à 20 mètres de la mer. Toute mon enfance, j'ai entendu ce grondement énorme de la mer, comme ça, dehors. Et la mer, c'est toute la puissance de création du monde. Toute vie vient de la mer et c'est la plus grande puissance de destruction ici-bas et c'est la même. Elle est indifféremment de création et de destruction. Et je crois que ce grondement premier, j'essaie de le recréer dans ce que j'écris, c'est tout. Et d'essayer de comprendre le mystère de cette puissance-là, puisque pour vivre dans ce grondement-là, il faut l'entendre aussi en soi. Et écrire, c'est faire monter ce grondement là, des forces en moi. Je veux dire, c'est un peu ça. Et voilà. Il n'y a pas mon dernier roman là, mais c'était ça en fait. Mon dernier roman s'appelait La beauté du monde. C'était retrouver ce frémissement là, ce qui fait que. Je crois quelque part, à l'arrivée, sous une autre forme, bien sûr, j'avais réécrit pour moi Le monde perdu de Conan Doyle, Les mines du roi Salomon et La guerre du feu, qui étaient les livres qui m'avaient habité quand j'étais gosse. Hein. Je crois que c'est quelque part retrouver cet émerveillement-là à travers des personnages.
Pierre, je suis sûr que tu es extrêmement sensible à ce que vient de dire Michel Lebrun.
Ah, s'il y a d'énormes équivalences, évidemment. Moi aussi.
Je suis pas né à 20 mètres au bord de la mer.
Non, mais j'allais dire c'est, tout est pareil, sauf la mer. Quoi.
Mais, le réchauffement climatique, ça viendra.
C'est sûr que je me suis toujours fichu aussi du lecteur, possible de. Ce qui est pour moi la meilleure façon de le respecter, d'ailleurs, puisque je me soucie d'abord et principalement de l'histoire que je raconte, que j'ai de compte à rendre à l'histoire que je raconte, à personne d'autre, et que. Par bonheur, cette histoire-là, quand on l'a racontée, si elle trouve des lecteurs et si ça leur fait plaisir, c'est merveilleux, quoi. Donc c'est malgré tout, quelque part, pour un lecteur possible qu'on les écrit. Mais on ne pense pas... Enfin, moi, je ne pense pas non plus à eux. C'est marrant parce que moi aussi, j'ai voulu réécrire La guerre du feu. Moi aussi, je l'ai fait un peu, d'ailleurs. Parce qu'il y a des choses dans l'enfance qui font que ça... Ça vous, des tas de choses vous nourrissent et vous font grandir. Et puis, on a trouvé que ce moyen-là d'exister, c'est d'écrire, quoi. Et je crois que j'existe d'abord. Ça fait un petit moment maintenant, quelques années que j'existe, donc. Et la meilleure façon que j'ai trouvé d'exister, c'était en écrivant. C'était à travers ce que j'écris. Le reste, c'est j'allais dire anecdotique, mais c'est accessoire, en tout cas. La véritable vie en chair et en os, c'est un truc... qui m'est plus étranger presque que le fait d'écrire, d'être dans ce que j'écris.
Et l'idée, c'est aussi d'exister, comme tu le dis, mais de voyager aussi.
Fatalement, moi, je suis un voyageur extrêmement immobile, beaucoup plus que Michel en ce sens-là. D'un autre côté, j'ai fait de grands voyages. Je suis allé sur des planètes différentes. Je suis allé en Australie, je suis allé au Québec, au Groenland, en Alaska. Je suis allé partout, j'ai jamais quitté mon fauteuil, quoi. Mais ça doit marcher quelque part. C'est une histoire d'empathie, je crois, qui font. Je pense qu'on a besoin de ça quand on est écrivain. Je suis fier de rien, sinon de ça. Je crois que je suis simplement écrivain, d'abord. Le reste, je ne sais pas. Mais ça, au moins, je suis sûr de ça.
Là, je vois l'ombre des voyageuses devant nous.
Là, j'ai fait du bateau là-dedans.
Oui, voilà. C'est un voyage par procuration.
Et en plus, dans le temps, oui. Et en plus, l'héroïne est une héroïne. C'est une femme. Donc, j'ai écrit à la première personne certaines parties du bouquin. Et c'est une femme qui raconte. Et j'ai été cette femme-là. Je suis monté sur un bateau au XVIIIe siècle. J'ai traversé le Grand Océan. Je suis arrivé en Louisiane. Je me suis battu aux côtés des Indiens. Là, et je l'ai vécu. Et je l'ai vécu de la même façon que j'ai vécu... je le dis en souriant, mais c'est vrai en plus. Parce que en fait, ce qui nous entoure, ça ne passe jamais que par l'esprit. la perception du monde qu'on peut avoir, ça passe par la tête, ça passe par un imaginaire. Et moi, l'imaginaire, je l'ai mis ailleurs, quoi. Je l'ai mis dans une autre dimension, peut-être, mais je l'ai vécu de la même façon, quoi.
Ce qui est fort, c'est que dans L'Ombre des Voyageuses, ce western qui te fait tant rêver, tu finis par le faire venir carrément dans les Vosges.
Oui, c'est la seule fois où des renégats hurons et sont venus dans les Vosges, quand même, il faut le faire. Ils y ont fait du beau boulot.
Vincent Message, alors vous, votre roman, il est vraiment dans une catégorie qui est très différente de ces romans qu'on vient d'évoquer à l'instant avec Michel et avec, avec Pierre. Souvenez d'entendre justement sur l'imaginaire, votre personnage de Nexus, lui, c'est par le rêve finalement qu'il va aussi voyager, se créer un monde. Donc là aussi, on est finalement, même si on n'est pas forcément tout à fait dans le même type de roman, on est quand même raccord à ce niveau-là par rapport à ce qu'on vient
d'entendre. Ah oui, je crois qu'on est raccord. Puisque mon personnage principal est aussi un voyageur immobile, effectivement. C'est quelqu'un qui...
D'autant qu'il dort quand il voyage, lui. Hein. Donc,
lui, sa façon de voyager, son véhicule pour le voyage, c'est le rêve. Donc c'est en plus à contre-temps. C'est quelqu'un qui travaille la nuit et qui dort le jour, puisqu'il est veilleur de nuit. Et ses journées sont des voyages. Parce qu'une seule vie ne suffit pas. Donc il a envie de vivre des vies alternatives et de s'en enrichir. Parce que c'est pour lui une façon de vivre de façon plus équilibrée, enfin d'essayer de restaurer ça. Il y a une illustration un peu dans le roman de choses qui viennent d'être dites. C'est Nexus, donc qui est quelqu'un qui a commis un crime et qui est interné dans une clinique. Mais cette clinique est un bâtiment qui a été conçu par un architecte qui était lui-même un peu fou. Et donc, elle prend la forme d'un bateau de pierre qui est situé dans les montagnes. Ça se passe dans des montagnes, mais c'est un bâtiment qui a une forme de bateau. Il y a des bâtiments comme ça dans la réalité, mais le mien, je m'en suis inspiré. En même temps, je l'ai largement détourné. Et ça devient le lieu d'un voyage pour les trois personnages du livre, puisqu'ils s'y enferment. Il y a donc ce meurtrier et deux enquêteurs, un policier et un psychiatre. Et pour comprendre pourquoi ce Nexus, un matin, est descendu dans la rue et a tué trois personnes, il va falloir que ces deux enquêteurs l'écoutent raconter cette vie alternative qui mène dans ses rêves, puisque c'est à partir de ça que les choses se sont jouées et que lui a basculé dans la violence. Donc il se retrouve en position d'auditeur dans une sorte de grande veillée. Ils sont enfermés dans la montagne avec les éléments autour d'eux, une nature autour d'eux qui est une nature très puissante. Et pour moi, il y a des images de... Il y a des images de montagnes qui ont nourri un imaginaire aussi dans mon enfance et jusqu'à aujourd'hui. L'enfermement progressif dans cette espèce de retrait de huis clos par l'hiver, par la neige, etc., ça fait que les choses se focalisent sur le conte, sur ce qui est raconté. Et ils sont suspendus, ces deux enquêteurs sont suspendus aux tours et détours que fait la parole du conteur, à qui on demande de justifier son crime, mais qui, pour faire ça, doit raconter beaucoup plus de choses, parce que ça n'arrive jamais comme ça. Il y a des causalités qui sont complexes, et donc on en passe par une histoire, ces digressions.
C'est aussi un etc. voyage dans les genres littéraires, votre livre, parce que c'est publié au Seuil, dans une collection qui est une collection de littérature générale, mais on est dans une histoire policière, en tout cas au moins pour une partie. On a une partie un peu d'un drame psychologique qui se noue entre les trois personnages lorsqu'ils sont justement enfermés dans cette maison. La maison en elle-même est presque un décor de science-fiction puisqu'elle est évolutive, cette maison, en son intérieur. L'univers dont rêve Nexus est presque un univers de fantasy. Enfin voilà, on est vraiment. C'est très difficile de classer votre livre en fait.
Oui, mais les livres sont pas faits pour être classés. Ils le sont pour des raisons pratiques,
dans les rayonnages,
dans les librairies, etc. Mais quand on écrit, on se pose pas tellement ces questions-là. On prend des différentes choses qui nous nourrissent. Et puis, donc moi, mon but était. Je me suis rendu compte en écrivant cette histoire que effectivement je cassais quelques frontières, mais qui me paraissent souvent assez artificielles. Et du coup, j'en ai pas tenu compte. Je me suis pas arrêté du tout à ça. J'ai lu pas mal de romans policiers et c'est un genre que j'aime bien. Mais j'avais pas envie d'écrire simplement une histoire policière de plus, un cadavre de plus, une énigme de plus. Je voulais saisir l'occasion d'avoir des personnages d'enquêteurs qui, tout en menant leur enquête, s'interrogent un petit peu sur leur métier. C'est-à-dire se demandent pourquoi est-ce qu'on éprouve une fascination pour des personnages de meurtriers? Et pourquoi est-ce que le policier, en littérature aujourd'hui, a une telle aura? Pourquoi est-ce que ça prend tellement de place? Alors, il y a plein de raisons à ça, qui sont pour certaines liées aussi au voyage, au sens d'expérience extrême ou d'expérience qui nous mettent dans une situation de grande insécurité, qu'on n'a pas envie de faire dans la réalité, mais qu'en revanche, on aime beaucoup faire par l'imaginaire. Fréquenter un meurtrier, je ne sais pas si on a envie de le faire au quotidien. Essayer de voir ce que c'est dans l'imaginaire, en revanche, c'est très intéressant. Donc, pour moi, le voyage entre les genres, oui, mais avec cette idée que les genres, c'est des choses très construites et que, voilà, il faut que l'histoire circule, il faut que ça se passe.
Michel.
Non, ce qui est frappant, je crois, c'est qu'on assiste depuis quelque temps à l'effondrement de ces cloisonnements.
Ce qui était un des objectifs de ce festival ici aux Imaginales au départ, oui. Qui était justement de se faire rencontrer les genres et de les faire discuter entre eux.
Oui, non, c'est ce qu'on essaye de faire aussi à Étonnant Voyageurs. C'était dès le départ, on ne voyait pas pourquoi. Par exemple, on inviterait Jim Harrison, je suppose, grand écrivain de littérature générale, et pas James Cramley, autant d'auteurs de romans noirs, alors qu'ils sont les meilleurs amis du monde et s'estiment comme des égaux. Et
qui sont
aussi.
Les premiers à ne pas se poser la question de savoir s'ils font un genre différent ou pas.
C'est une spécialité très française, il faut bien en prendre conscience, où un milieu, non mais c'est une logique de milieu littéraire, ayant défini ce qu'était la vraie littérature par rapport à ce qui ne l'est pas, rejetant comme genre un certain nombre de choses et dressant des barrières pour s'en protéger d'une certaine manière. Alors il y a des époques où ces barrières sont tombées, moi je suis en train de faire des émissions sur les années 50, c'est frappant de voir comment par exemple l'arrivée de la série noire dans l'immédiate après-guerre est accueillie avec enthousiasme par les plus grands écrivains de l'époque qui voient un renouvellement de l'écriture. Pourquoi ? Parce qu'un certain type de littérature d'avant-guerre est mort dans la guerre et on a l'impression devant ce type de littérature-là, à ce moment-là, d'être devant une masse de clichés, de formules convenues, etc. Et on a envie d'une littérature qui dise le monde nouveau qui est en train d'apparaître. Et puis, en France, malheureusement, ce milieu a tendance sans cesse à se reconstituer en expulsant sur les marges ce qui dérange les raconteurs d'histoires, etc. Et on assiste à une période là où ça s'effondre par un effet aussi de génération. J'appartiens à une génération où ceux qui voulaient faire carrière littéraire encore faisaient référence à la collection blanche, à certains types de littérature. Il y a un phénomène de mimétisme qui est tout à fait étonnant et on voit apparaître des jeunes auteurs qui sont, dès le départ, quasiment pour se faire accepter, des clones apparents de X, Y, Z, etc. Bon. Ça, c'est quelque chose qui disparaît. Ce qui me frappe, moi, dans les jeunes auteurs qu'on invite à Saint-Malo, c'est des similitudes de comportement. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui arrive qui ne sait même plus ce qu'étaient les débats littéraires des années 50-60, du structuralisme, Barthes contre Picard sur Racine, des choses qui enflammaient comme ça notre génération. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. De toute manière, eux ont baigné, ils arrivent en ayant vécu dans la SF, Philippe K. Dick, dans le rock, la BD, et leurs références culturelles, d'une certaine manière, sont celles-là beaucoup plus que c'est pas une critique vis-à-vis de Proust ou quoi que ce soit, mais plutôt c'est ça plutôt que Proust souvent par exemple. Mais en même temps, c'est un phénomène mondial. On avait fait une année comme ça, on s'est dit, tiens, quels sont les meilleurs jeunes auteurs du monde entier pour voir si, donc on avait lu des tombereaux de bouquins pour voir si c'était partout pareil, s'il y avait un phénomène générationnel à l'échelle mondiale, si c'était le grand village global ou s'il y avait des différences toujours par zone. Est-ce qu'un écrivain indien écrivait de la même manière qu'un écrivain australien ou qu'un écrivain latino, etc. Et ce qui était frappant, c'est que c'est chez ces très jeunes, quand on leur demandait quelles étaient leurs références littéraires, presque aucun ne citait un auteur de son pays, des écrivains indiens, de la génération d'avant, puisqu'on avait fait la même chose en 80. 92 ou 93, je ne sais plus. Et quand on posait la question aux auteurs, les Indiens disaient Tagore, etc. Enfin, les nouveaux, non. Alors, les Chinois, ils disaient, qui écrivaient des polars, disaient Chandler, Ahmed, parce que c'est eux qui rendent le mieux compte de la ville, de ce grondement de la ville, de la corruption, etc. Ils voyaient l'équivalent à Shanghai. Donc, c'était leur référence, où c'était Philippe K. Dick, où ils parlaient les uns et les autres parlaient du rock. On voyait bien qu'il y avait effectivement un effet de génération, même si on voyait en même temps que quelque part il y avait un phénomène d'hybridation qui est sur un fond commun incontestable et qui est anglo-saxon. Il n'y a pas de doute aussi, à l'échelle du monde, c'est le roman anglo-saxon qui a quasiment triomphé, qu'on retrouve partout, mais avec un phénomène d'hybridation qui se développe de plus en plus, qui fait que sur cette base, on retrouve les mêmes des différences culturelles très fortes. Vous prenez un Tarun Tejpal en Inde, c'est à la fois un roman à l'américaine, mais dans lequel tout d'un coup, à mesure qu'on avance, tout s'y retrouve, la mythologie indienne, etc. Et ces auteurs-là produisent quelque chose qui est très différent du reste. Mais par contre, il y a un background commun. Et ce phénomène d'exclusion, de l'ASF, etc., non, ça me fait sacrément plaisir, moi, de voir que finalement, on est peut-être pour un moment, peut-être que ça reviendra, mais on est en train, même en France, de se débarrasser de ça, qui va en même temps avec le bonheur de raconter des histoires. Moi, quand j'étais jeune, étudiant, raconter une histoire, c'était quasiment une obscénité. La littérature pure n'avait d'autre objet qu'elle-même, se déployait dans l'oubli du monde, structuralisme oblige. Et il y avait ceux qui racontent des histoires, c'était on proposait la distinction à l'époque, je crois que c'est Ricardou, entre écrivain, Barthes aussi d'ailleurs, entre écrivain et écrivain. Il y avait les écrivains, les vrais, dont le seul objet c'était le langage, et les écrivains qui...
qui étaient des saltimbanques, quoi.
Qui écrivaient quelque chose. Qui disait quelque chose, qui racontait une histoire. C'était donc pas de la littérature pure. On est arrivé parfois à des situations insensées. Il faut relire Ricardou là-dessus. Tel quel 1967, Ricardou reprochant aux écrivains un usage naïf de la langue et les priant de se recycler en linguistique pendant que les linguistes, bien sûr, écriraient des romans à leur place. Ça n'a pas marché très fort.
C'est des effets de génération, c'est des effets de lecture aussi. Moi, c'est vrai que je ne me suis pas seulement du tout formé par la littérature française. Donc, pendant cette phase qu'évoque Michel Lebris, en Allemagne, en Amérique latine, etc., on ne se faisait pas prier pour raconter des histoires. Et c'est vrai que pour moi, ma constellation, enfin une constellation avec laquelle j'ai grandi, c'est les Günter Grass, les Garcia Marquez, etc. Certains prenant d'ailleurs aussi des positions théoriques contre ce mouvement-là. Carlos Fuentes, un romancier mexicain, qui écrit sur le nouveau roman latino-américain en prenant certaines positions contre Rob Grillet, pour un nouveau roman, etc. Et c'était aussi, je crois, lié à... Alors, on a pu voir ça comme des phases historiques, comme si on racontait des histoires tant qu'on était un pays qui n'était pas complètement formé politiquement, etc., et qu'ensuite on s'arrêtait parce qu'il se passait plus rien. Ça, je pense que c'était le contre-argument qui était sorti en France à l'époque. Et puis aujourd'hui, on a le sentiment que c'est l'autre position qui effectivement s'effondre, parce que dire qu'il n'y a plus d'histoire à raconter quand on voit la vitesse des événements dans le monde contemporain, l'ensemble d'événements nouveaux dont la littérature peut se saisir et dont elle peut rendre compte, je trouve ça tout à fait étonnant.
Et puis l'imaginaire, c'est indomptable de toute façon.
Ben oui, mais il n'empêche que pendant des décennies, on a tiré à boulet rouge dessus, et qu'on se sentait... Quand je repense à mes années étudiantes, et en plus c'était partagé par tellement de gens, on en parlait à midi, on attendait que sorte la revue Fiction, puis est sortie la revue Galaxie, on attendait ça comme ça, on se passionnait pour le cinéma américain, pour la contre-culture américaine, j'attendais que sorte Mad, Tale from the Crypt, des trucs comme ça. C'était le free jazz, c'était le rock, c'était rien, mais absolument rien de ce qui était la culture de cette génération n'avait droit de citer dans les journaux sérieux. Il faut lire vraiment le monde dans ces années-là pour voir si le rock, s'il y avait quelque part Vince Taylor, par exemple, des fauteuils cassés, il y avait un sociologue qui s'exprimait sur ce phénomène, mais enfin, ça n'aurait effleuré personne, dans ce journal sérieux, qu'il puisse s'agir de création artistique. Il était un peu fatal à un moment donné que quand même le couvercle explose. Donc toute ma jeunesse, ça a été ça, ce sentiment de toute une jeunesse qui était mise en marge de ce qu'était le goût officiel. On lisait Philippe K. Dick et nos profs nous parlaient d'André Mauroy. Il y avait comme on avait l'impression qu'on était sur la planète Mars par rapport à ça. Alors je ne dis pas les séances houleuses en classe avec les profs. C'était extrêmement vif et en même temps il y avait cet invraisemblable retrait de l'histoire. De l'intelligentsia française qui est liée aux guerres coloniales, etc. Il y a une époque où des écrivains engagés, on peut en penser ce qu'on veut, mais enfin Sartre, Camus, etc. Puis tout d'un coup, il y a un phénoménal retrait de l'histoire. Et c'est en fait le développement du structuralisme où tout d'un coup, il y a des gens qui disent ben non, la littérature n'a pas d'autre objet qu'elle-même, elle est pure jeu de langage. Et en gros, on n'a plus rien à dire. On n'a plus rien à dire. Je pense qu'on a. Dans la situation présente, lorsqu'on a cette évidence devant nous qu'un monde est en train de disparaître et qu'un autre est en train de naître, on retrouve peut-être ce sentiment que c'est la littérature qui a cette capacité à dire l'inconnu du monde qui vient et qu'elle n'est jamais aussi vivante que lorsqu'elle s'attache à ça. C'était le cas dans toutes les littératures étrangères. Et pendant un certain temps, on avait l'impression qu'il y avait juste un îlot comme ça où on s'obstinait à mettre la tête dans le sable pour ne rien savoir du monde. Et puis, bien évidemment, au bout d'un moment, ça n'est plus tenable et quelque chose bouge. Et ça bougera par des générations nouvelles d'auteurs, en fait. C'est ça que moi, j'attends. Et il y en a quand même un certain nombre qui apparaissent maintenant, qui ont des choses à dire. Tout ça, c'est aussi bête que ça, si on a quelque chose à dire. Pourquoi la littérature haïtienne est aussi vivante, la littérature caribéenne, la littérature africaine? Pourquoi eux ont ignoré les injonctions du structuralisme à une époque et tout ça? C'est parce qu'ils avaient des choses à dire, tout simplement. Ils se posent des tas de questions sur l'écriture littéraire proprement dite. Tout écrivain se pose des tas de questions sur ce qu'il écrit. Mais c'est porté par cette urgence de quelque chose à dire. Et je crois qu'on commence à y être, nous aussi, là. Ça, j'aurais passé longtemps à l'attendre, en fait. Et j'ai le sentiment que ça arrive. Oui.
Pierre, quand tu t'embarques dans cet ainsi que les hommes vivent, est-ce que justement tu dis que le jeu de raconter cette histoire-là en vaut vraiment la chandelle ?
Fatalement, sinon je me lance pas là-dedans. Ça m'a pris du temps, ça. Mais c'est vrai qu'il faut dire le monde, quoi. Je crois qu'on peut pas faire autre chose que ça. Que ça, à partir du moment où on se met à écrire des choses, c'est ainsi que les hommes vivent. Ça m'a pris, ça a mûri lentement. Je sais pas pourquoi viennent les histoires. Je sais pas comment elles vous attrapent et comment elles vous poussent à se faire raconter. Je sais pas exactement. Je crois qu'il y a quelque chose de formidable d'ailleurs, non. Mais on est choisi tout à coup, et moi j'ai été choisi pendant des années à rassembler de la documentation sur cette époque-là. J'ai, pendant plus de 20 années, je me suis penché sur cette guerre de 30 ans, sur là où elle s'est passée, surtout dans la vallée où je vis moi, et j'ai voulu je crois qu'au départ je voulais dire je me suis posé la question d'ailleurs, et je voulais essayer d'y répondre, qu'est-ce que pouvait être la vie de quelques générations, d'ailleurs, de personnes dans le fond d'une vallée perdue, des Vosges en l'occurrence, traversées par l'enfer, quoi.
Ils n'avaient rien demandé à personne.
Alors qu'ils ont certainement. Moi, déjà, quand j'ai essayé de me documenter sur la guerre de 30 ans, j'ai lu des gros bouquins énormément et je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Alors, je suppose que les gens en question, qui étaient en prise directe avec la chose, n'ont rien compris du tout. Sinon, qu'ils ont vu passer des hordes et des hardes et des soldatesques bizarrement amis ou ennemis. Ils ne savaient pas. De toute façon, ça vivait sur le truc. Donc, je me suis penché sur la chose pendant près de 20 ans. J'ai réuni des documentations là-dessus. Et puis, un jour, je me suis mis à l'écrire parce que je ne pouvais plus faire autrement. Parce que l'histoire était prête, parce que c'était ça qu'il fallait que je fasse, parce que ça m'a duré un peu plus de 2 ans. tous les jours. Est-ce que je savais où j'allais ? Bien sûr. Je savais quelle histoire je voulais raconter. Je connaissais les personnages. Ils m'ont embarqué quelquefois sur des chemins que je n'avais pas fatalement prévus, mais c'était quand même pour arriver au même but. Le but, je le connaissais.
Mais en imaginant que ça serait une telle somme
Je ne me suis même pas posé la question. J'y suis allé, quoi. Je racontais. Je savais bien que je ne voulais pas faire un petit livre. Donc, effectivement, ça n'a pas été un petit livre. Ça m'a donc pris 2 ans de mon existence à moi et un peu plus d'écriture. D'écriture, ça veut dire que d'écriture, c'était tous les jours. Il n'y a pas les samedis, les dimanches n'existent évidemment plus. Et on y va pendant 2 ans. C'était. Mais on, je sais pas, je dis on, mais c'est prétentieux de ma part de dire on quand même. Je peux dire modestement je. Donc, dans cette équipée-là, j'ai fonctionné d'une façon très étrange. J'étais encore une fois ailleurs. J'étais dans l'histoire en question. C'est une histoire qui est articulée sur 2 époques. Il y a une période au début du XVIe siècle et dans le XVIe siècle, il y a une période contemporaine. Et je voulais faire coïncider, parce qu'elles ont quand même il y a un truc charnière entre les deux, et je voulais, je vous raconte ça un peu pour essayer de visualiser la façon de procéder. Je pensais la construire avec des chapitres, un chapitre 16e, un chapitre contemporain, machin, et avancer comme ça. J'y suis pas arrivé, j'ai démarré au XVIe siècle. Quand j'ai eu fini mon premier chapitre sur ma première fraction de l'histoire au XVIe siècle, j'ai voulu passer maintenant, j'y suis pas arrivé parce que les tiroirs étaient quand même un petit peu difficiles à glisser. Donc j'ai continué, j'ai écrit toute la partie XVIe siècle qui m'a pris en gros quand même plus d'un an. Je suis allé jusqu'au bout. À aucun moment je me suis relu, à aucun moment je suis revenu en arrière, j'avance. J'avance dans l'histoire, je la raconte, elle me pousse, elle me tire, et j'avance dedans. Quand je suis arrivé au bout, je suis passé à la partie contemporaine. Et j'ai procédé de la même manière, je n'ai pas relu la précédente. Et quand je suis arrivé au bout de la deuxième partie contemporaine, j'ai imbriqué les deux parties, les unes dans les autres. Croyez-moi, si vous voulez, je n'ai pas changé une virgule. Ça correspondait absolument comme ça devait, alors que je n'avais rien relu. Ça veut dire quelque part que tout ça était inscrit d'une manière ou d'une autre dans le fond de mon crâne, quoi. Donc, est-ce que je savais, pour en répondre à la question, est-ce que je savais où j'allais ? Probablement.
Moi, je me souviens, quand on s'est vu au moment de la sortie du livre, tu m'as dit, c'est pire qu'un accouchement.
Ah ben, la fin de la chose, le bout du chemin, c'est terrifiant, bien sûr, parce que tout à coup, on se retrouve, moi, je sais très bien que j'étais dans un état déplorable au bout de le mot fin écrit, c'est terrifiant, bien sûr, quoi. Et puis le livre existant, on voit la dernière relecture des épreuves de la chose. J'étais tout seul dans mon bureau, je me suis effondré, mais totalement. J'étais en larmes pendant 5 minutes et je ne pouvais plus m'arrêter. Et c'était comme ça, se vider du bon. Je sais très bien que le livre existant, j'ai vraiment vu s'éloigner les personnages. Personnages auxquels, quelques-uns auxquels je tenais beaucoup.
Ils ne t'appartiennent plus.
Je les ai vus partir. Je les ai vus s'en aller. Et la chose encore plus étrange que ça, c'est que quand des gens, donc des lecteurs, se sont mis à lire le livre et m'en ont parlé, j'ai vu revenir les personnages. Ils sont revenus et ils ne m'ont jamais plus quitté. Ils sont là toujours. Et ils sont, voilà, ça c'est une...
Ils ont accompagné les lecteurs aussi, parce que ouais. Moi j'ai des souvenirs de dédicaces où il y en avait quand même qui avaient été très très loin, jusqu'à dresser des cartes parfois pour retracer les trajets.
Ça, ce livre-là a été une aventure absolument... En plus, c'est pas en plus, il y a l'écriture, donc, et c'est une écriture qui n'est pas facile du tout. J'ai essayé je ne veux pas dire que je l'ai écrit en moyen français, parce que sinon il serait incompréhensible, mais j'ai fait quand même quelques recherches. Et c'est une écriture qui je voulais donner le ton de cette époque-là. Donc c'est à partir de beaucoup d'expressions du moyen français. J'ai travaillé beaucoup avec des tas de dictionnaires, quoi. J'ai découvert d'ailleurs la langue française à travers ce truc-là, qui est absolument formidable. J'ai utilisé des mots dont plus personne ne se souvient, qui sont totalement obsolètes, et des mots mais magnifiques qui contiennent en eux-mêmes le sens de ce qu'ils veulent dire, quoi. Vous les avez jamais lus, vous les voyez dans une phrase et vous comprenez ce que ça signifie. J'ai découvert la langue aussi. Donc, à partir de cette aventure de personnages qui sont dans ce livre-là, s'accompagne d'une aventure littéraire, bêtement, quoi, d'écriture en tout cas. Et ça, en plus, un bouquin énorme. Et le nombre de personnes qui sont revenues me dire qu'ils avaient eu peut-être un petit peu, ils avaient été un peu surpris au départ du livre, mais qui, une fois dedans, n'ont pas pu s'en sortir, sont effectivement nombreuses. Et ça, c'est un grand bonheur, quoi, parce que eh ben, c'est du bonheur. Voilà.
Vincent, combien de temps en tout pour en arriver à ces veilleurs ?
Oui, le long cours, c'est la taille du livre, mais c'est aussi le temps de l'écriture.
Voilà, c'est ça, c'est pas seulement ce que nous, lecteurs, on voit, c'est tout ce qu'il y a
bien
en amont.
Sûr. Ouais. Ouais, oui. Bah, moi, ça s'est fait très en amont. J'ai mis 5 ans à écrire le livre. Avant même de me mettre à écrire, il y avait une phase où, comme ça, j'avais l'histoire en tête, j'avais son architecture globale, même si ensuite, dans la rédaction, ensuite, ça a été plus compliqué. J'ai écrit du début à la fin, mais avec des effets de boucle, c'est-à-dire en revenant assez régulièrement, et puis surtout en revenant une fois que j'avais fini le tout. C'est pareil, j'avais pas anticipé que ce serait un livre aussi long. Je savais qu'il serait assez long parce que le principe du livre, c'est qu'il y a deux plans de réalité distincts. Il y a une grande ville occidentale qui s'appelle Rexon et où se déroule l'enquête. Et puis, il y a l'univers onirique du personnage principal, de ce meurtrier. Et ces deux plans s'imbriquent. Et donc, on a cette alternance. Donc forcément, ça allait prendre un peu d'espace, de camper ces deux mondes, qui sont en plus des mondes fictifs. Et puis, c'est aussi un roman par scène. C'était important que ce soit un roman par scène pour moi parce que c'est comme ça que se passe le rêve. C'est-à-dire, ça parle beaucoup du rêve et du sommeil. Et dans le rêve, on a des visions, on a des sensations. On voit des choses. On n'entend pas des choses racontées. On n'entend pas 3 semaines plus tard, il se maria. On voit des choses. Et donc, il fallait que ça apparaisse comme tel, avec un pouvoir d'évocation. Je voulais essayer de donner le plus de chances possible à cette logique-là. Forcément, ça a pris des dimensions assez importantes. Quelque chose qui comptait aussi pour moi, c'était de ne pas simplement écrire cette histoire, mais d'essayer d'avoir une espèce de panorama, de vue panoramique. Et c'est très important dans le livre, cette histoire de prendre un peu de hauteur, notamment parce que ça se passe en grande partie en montagne, prendre un peu de hauteur et regarder le paysage. Et là, le paysage que les enquêteurs regardent, c'est celui de la place que l'imaginaire occupe dans notre société et dans notre monde. Quelles sont les formes de l'imaginaire ? Effectivement, un peu parfois marginalisées, des formes au contraire parfois très sombres, comme celles autour du crime, autour de la folie, etc., qui occupent une grande place. Donc il y a un moment donné, par exemple, les Rildiro et Tromfreund, les deux enquêteurs, sont dans une soirée, c'est un vernissage d'un tableau, et ce tableau se présente comme une sorte de grand triptyque à la façon du Moyen-Âge. Ça va des aspects les plus sombres aux aspects les plus lumineux de la réalité, de la vie de la ville dans laquelle ils vivent. Et donc ça évoque, ça s'appelle le dit de Rexon, et ça évoque Rexon, cette ville, du crime à Rexon aux choses les plus belles qu'il peut y avoir dans cette ville. Et puis, la soirée avance et les deux enquêteurs se rendent compte qu'une majorité de spectateurs se dirigent et s'attardent plus volontiers sur les parties les plus sombres du triptyque, sur ce côté plus obscur. Et c'était quelque chose qui pour moi était important. Et alors ils se mettent à en parler, ils se mettent à essayer de comprendre pourquoi. Et comme des papillons de nuit, les gens viennent regarder ça au risque de se brûler. Donc, au sein d'un livre qui parle de différentes formes d'imaginaire, des formes assez sombres autour du sommeil et de la folie prennent une place importante dans le livre. Et je voulais que ce soit une traversée de ce paysage-là. Forcément, ça crée des romans, à la fois roman-monde, puisqu'il est question de deux mondes parallèles, mais aussi des romans qui ont cette volonté d'une espèce de synthèse, comme c'était le cas au début du XXe, peut-être plus qu'aujourd'hui, chez les romanciers modernistes, chez moi de la tradition allemande, notamment, que j'aime bien, chez Thomas Mann ou chez Proust d'une autre façon, etc. C'est pas juste Proust raconter une histoire sur le temps, c'est essayer de voir en quoi le temps modifie notre perception, en quoi le temps conditionne notre existence de A à Z, etc. Donc, il y a cette volonté de modifier le regard sur une question et pas juste de raconter une histoire qui traverse une question. C'était l'ambition initiale dans Les Veilleurs. Donc, ça impliquait aussi de prendre plus d'espace et de pas se laisser conditionner par le format usuel d'édition, etc. Surtout pour un premier roman, c'est pas forcément évident d'écrire long. Mais il fallait pour moi prendre cette liberté pour ce que j'avais à raconter.
En tout cas, ce que vous venez de dire, ça me rappelle un tableau de Goya, enfin qui n'est pas un tableau d'ailleurs, qui est un dessin de Goya et qui s'appelle Le sommeil de la raison engendre des monstres.
Oui, bien sûr. La série noire de Goya était une source d'inspiration pour moi là-dedans. En plus, Goya qui était un peu schizo, parce que à côté des portraits officiels de la cour où il mettait de la noirceur, mais où cette noirceur était quand même sous un vernis de mondanité, de portraits princiers, il avait sa part plus obscure. Et c'est ce genre de choses-là aussi qui m'ont intéressé en créant mes personnages et l'univers visuel qui va avec.
Michel, on va finir avec vous. Vos livres, c'est toujours une invitation au voyage. On va revenir évidemment à cette...
Je ne sais pas,
cette...
mais oui.
Ah, mais parce qu'on a envie de vous, on a envie de vous suivre. En même temps, on aurait presque envie d'aller sur les traces de vos personnages, finalement, de voyager à leur côté.
Oui, alors, c'est... C'est drôle parce que celui que j'ai sous les yeux, La Porte d'Or, c'est basé sur un voyage réel. Et c'est vrai que la poussière de la route, le caillou dans la chaussure, la rencontre avec les autres, c'est extrêmement important. On peut rêver la mer, d'avoir navigué, donne quelque chose de plus. Et en même temps, quand je dis ça, le roman qui m'a occupé 5 ans aussi, La Beauté du Monde. Alors c'est drôle parce que le rédacteur en chef de Géo, recevant le livre, m'écrit, il dit, oh, écoute, c'est incroyable, j'ai passé tellement d'années au Kenya dans les lieux que tu décris, mais tout y est, les odeurs le matin, comme ça. Puis j'ai reçu des lettres du Kenya aussi en disant, il faut venir, mais en quelle année avez-vous vu ça? Parce que c'est... j'ai jamais mis les pieds au Kenya, moi. Je l'ai rêvé, ce Kenya des années 20, je l'ai totalement rêvé. Donc l'un, c'est un voyage réel, l'autre est un voyage rêvé. Mais quelque part, c'est deux manières d'aborder les mêmes questions, parce qu'on dit voyage, on dit aventure. Le vrai thème de La Beauté du Monde, c'est vrai que c'est une histoire extraordinaire en tant que telle et qui m'a obsédé parce qu'elle se passait dans les années 20, que j'ai vécu beaucoup dans les années 20 par la passion du jazz, parce que ce sont des années incroyables aux États-Unis de liberté. Ce sont les grandes années de Duke Ellington où s'invente ce fameux style jungle, mais c'est l'époque de King Kong, c'est l'époque de plein de choses comme ça qui me fascinaient, l'âge d'or de l'exploration américaine. Je tombe sur une histoire absolument fabuleuse et j'avais envie de la raconter. En même temps, une histoire, c'est une manière de dire quelque chose qui ne peut pas se dire autrement. Et ça s'appelle La Beauté du Monde. Et vous parliez de la partie obscure, mais pourquoi c'était si important? Pourquoi c'est si important pour moi, cette question de la beauté du monde? Pourquoi la question de la beauté est, à mon avis, absolument centrale? Parce que quelque chose se dit dans la création artistique qui est absolument essentiel et dont j'ai le sentiment parfois que le rouleau compresseur de la modernité est passé dessus pour l'ignorer. Mais de la modernité, mais aussi des totalitarismes, etc. Si on réfléchit juste à une chose simple sur ce qu'est un poème, quelqu'un, mettons en Chine, il y a des millénaires, a écrit un poème. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais des maîtres penseurs à l'université qui m'expliquaient que tout texte est le produit de ses contextes. Ça me chiffonnait déjà un peu à l'époque, parce que ça veut dire aussi que quelque part, tout homme est le produit de ses contextes. Et je me suis trouvé comme ça face à un brave monsieur, Pierre Gascard, un jour, à la télévision, qui venait de sortir un livre sur Gérard de Nerval et qui expliquait Gérard de Nerval par les conditions historiques, sociales, politiques de son époque. Et je lui ai posé, j'aurais pas dû parce qu'il était désarçonné, il n'a pas su quoi répondre et c'était un type bien par ailleurs. Mais je lui ai dit, mais dans ce cas-là, pourquoi il n'y en a qu'un? Et c'est ça qui m'intéresse, moi, pourquoi il n'y en a qu'un de Nerval à ce moment-là? S'il s'explique par les conditions de l'époque, il doit y en avoir. Dès qu'il
y aurait une génération spontanée.
Ben oui. Je lis ce poème d'un poète chinois il y a des millénaires. Et ce poème m'émeut aujourd'hui. C'est donc qu'il y a dans la création artistique quelque chose qui a la capacité de transcender ces contextes, de s'échapper aux contextes qui étaient ceux de son énonciation. une puissance donc de traverser le temps, de vaincre la mort, et qui me parle au présent, aujourd'hui. Il y a donc une transcendance de l'œuvre d'art par rapport à ceux qui prétendent le déterminer. S'il n'y a œuvre d'art que parce qu'il y a cette capacité à transcender le temps, à s'échapper à ces contextes, c'est donc qu'il y a dans la personne qui a écrit ce poème, et donc dans toute personne qui le reçoit, et donc dans toute personne en général, une dimension de transcendance, une capacité de création, un pouvoir de vaincre par l'imaginaire les conditions dans tout ce qui prétend le déterminer et le contraindre. C'est ça l'enjeu de la beauté. L'enjeu du poème, c'est reconduire chacun à la perception de cette verticalité en lui. Or, si vous faites attention à ce qui, au rouleau compresseur, toutes les idéologies vous ramènent au clan, à la race, à la classe, au contexte, etc., est écrivain celui qui se dresse droit face à ça et contre toute raison affirme cette dimension de transcendance en lui et donc aussi dans le lecteur. Le vrai sujet du livre, c'est la quête de deux personnes qui vont inventer le cinéma animalier en Afrique, qui s'interrogent, dont le moteur est cette interrogation sur cette puissance de création en l'être humain. Qu'en est-il de cette puissance de création? Et c'est fascinant parce que ça arrive, il y a quelques écrivains ou peintres, Gauguin, Stevenson et tout ça, à la fin du siècle précédent, qui sont partis dans les mers du Sud. Il faut quand même voir que tout l'art moderne est né du choc qu'a été la découverte de l'art africain et de l'art polynésien. Si des sauvages sont capables d'une telle beauté, d'où vient notre capacité de création? Est-ce que c'est, comme on le disait alors dans un Occident fatigué, d'un toujours plus de culture, de l'acquisition de toujours plus de techniques, ou bien est-ce que ça provient d'une part refoulée, oubliée, inconnu, d'un continent intérieur qu'il s'agirait de retrouver. Et c'est ce qu'à ce moment-là, ils appelleront la part sauvage. Curieusement, il y a un trompettiste qui est un des héros de mon roman, Bubba Miley, qui sera le trompettiste de Duke Ellington, qui va inventer ce fameux style jungle, sauvage. C'est le moment où, au sortir de la guerre, cherchant une autre manière de vivre le monde, de s'échapper à ce qu'étaient les idéologies anciennes, des jeunes gens d'Amérique vont se précipiter aux quatre coins du monde, où d'autres vont rêver, Flash Gordon, Tarzan, King Kong, avec une espèce de joie, d'effervescence incroyable. Ça durera 10 ans, la crise de 1929 et la Grande Dépression tuera tout ça, mais pendant ces 10 ans se dit quelque chose comme ça de cette dimension de l'être humain. Moi, ce que j'ai connu quand j'étais étudiant, c'était le martèlement par les maîtres à penser, notamment du structuralisme, de la négation, mais obstinée de cette dimension-là en l'être humain. Peut-être que c'est pour ça que j'ai cette obstination de livre en livre à l'affirmer. Alors le voyage, c'est une manière, effectivement, si vous sortez de tout, si vous quittez le chemin, si vous sortez de ce qui vous a fait, de vos contextes précisément, quel est le texte? Quand vous sortez de vos contextes, le voyage, c'est un peu ça. Et de livre en livre, c'est les figures de l'autre et de l'ailleurs que j'essaie de dire. Ce texte-là qui s'obstine par-delà les contextes à s'affirmer. Voilà, c'est ça le projet, dans le fond, de tous mes livres, que ce soit des romans, des essais, que ce soit le Festival Étonnant Voyageur, que ce soit les collections que j'ai pu créer. Ça a toujours été ça que j'ai cherché à affirmer.
Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je pense qu'on a bien mesuré la puissance de l'imaginaire et de l'imagination, qu'on soit auteur, qu'on soit simple lecteur, tout simplement. En tout cas, ça a été un plaisir vraiment de vous écouter tous les trois et puis de voyager avec vous pendant cette heure. Maintenant, si vous voulez continuer le voyage, vous savez quoi faire. Hein. Vous en référez aux ouvrages des trois auteurs qui étaient avec nous, Michel Lebris, Vincent Message et Pierre Pelot. Vous les retrouvez sous la bulle du livre pour éventuellement continuer les discussions, éventuellement les voir en dédicace. Et puis, moi je vais continuer le voyage parce que je crois qu'il ne peut pas s'arrêter simplement là juste parce que le café se termine, mais juste parce que on a maintenant envie de continuer à rêver grâce à vous et avec vous. Merci beaucoup.